des écrans philosophiques, un cycle conçu et organisé par la Maison Populaire, le Collège International de Philosophie et de Cinéma Le Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 19 janvier 2011, à l'issue de la projection du film Johnny Guitar de Nicolas Ray, États-Unis 1954, présenté par Éric Méchoulan, professeur et directeur du département des littératures de langue française à l'Université de Montréal, directeur de programme au Collège international de philosophie. Présentation suivie d'une discussion avec la salle.
Une des choses que m'intéresse beaucoup dans le western en général, et on l'avait vu l'an dernier avec la fille du désert,
exactement. Là, je suis trop mal.
Excusez-moi,
c'était très beau. Et ça m'a fait rajeunir de 55 ans. J'ai 76 ans, je l'ai eu à 15 ans.
Oui,
à 55.
La dernière fois,
mais là, je suis trop fatiguée, excusez. Et bon courage.
À l'année prochaine, alors.
J'espère qu'il y aura autre chose avant. Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc oui, on avait fait sur la fille du désert, en anglais c'est beaucoup plus parlant, Colorado Territory. La question est vraiment celle du territoire. Et une des choses que je trouve assez frappante dans Johnny Guitar, c'est que de nouveau, alors c'est mon obsession, mais la question du territoire est là. Et ce qu'on avait dans le film de Colorado Territory, ce qu'on voyait très bien, c'est comment le territoire n'était pas tellement une question d'espace, même si on avait des vues d'espace magnifiques. C'était une question de temps et de construction imaginaire, en fait, des individus. La façon dont on habite un espace, plutôt que l'espace lui-même. Et dans le Johnny Guitar, une des choses qui me paraît assez frappante, c'est la façon dont, à l'inverse de ce film dont je viens de parler, il y a un effacement de l'espace. C'est un film extraordinairement clos. Là où on attend des grands espaces, l'image fixe du générique de départ, classique, le grand espace américain, les montagnes, les forêts, etc. Mais en fait, si vous réalisez à la fin du film, vous avez vu à peu près aucun de ces espaces classiques. On les voit à peine, de temps en temps, mais c'est très très rapide. En général, même les scènes de chevauchée sont plutôt prises en plan assez rapproché. Donc on voit les chevaux, on voit les gens se déplacer, mais on ne sait pas d'où ils se, enfin, de quel endroit ils se déplacent, vers quel endroit. Il n'y a pas du tout d'unité spatiale. Le saloon de Vienna est complètement isolé. C'est un espace totalement clos, séparé de la ville. Manifestement est loin, mais la seule fois où ils y vont, en fait, on a un plan où on les voit partir, le plan suivant, on les voit arriver. Il y a un chien qui passe tout seul, la ville est totalement vide. Donc c'est un film exemplairement évidé, je dirais, de toute forme d'espace classique qu'on attend du western. En même temps, Nicholas Ray nous rejoue tous les topos du western. L'arrivée, le cow-boy solitaire, des explosions, en fait, c'est pas du tout contre lui, c'est simplement des mines pour creuser une trouée ou combler quelque chose. Et puis ensuite, l'attaque de la diligence, mais il voit ça très très loin. Il n'est que spectateur de tout ce qui se passe. Il arrive dans le saloon, le vent... le saloon désert, mais avec les croupiers et tout ça. Donc, on a tous les éléments, le hold-up après de la banque. On a tous ces éléments, mais en même temps, on a l'impression d'avoir une sorte de décor de western généralisé, mais pas un espace avec la dimension habituelle que l'on trouve dans les westerns. Et cette clôture, elle est dans le saloon, évidemment, elle est dans la façon dont le repère du kid est lui-même un lieu complètement clos. Donc on passe de ce côté caverne du saloon, où on a à la fois la construction en briques et en bois, mais le fond, comme vous l'avez vu, c'est le rocher lui-même. Donc c'est comme si le saloon était agrippé au rocher, mais plutôt le rocher dans l'intériorité du rocher que le rocher dans son extériorité. Ce n'est pas le rocher qu'on voit de loin, c'est le rocher dans lequel on est. Il faut rentrer dedans. Et cette manière d'entrer dans la nature est une façon exactement inverse que de la montrer, de la cadrer. Mais en même temps, ça renforce le côté très décor. Dans le saloon, ce rocher qui apparaît, il est là dans le fond de la scène. Donc il y a le piano, il y a une estrade, et ce qu'on attend, c'est un décor classique. Ben non, en fait, ce qu'on a, c'est le rock. Évidemment, ce rock, c'est aussi un décor. Donc ce rapport entre l'espace et le décor est quelque chose qui est assez important et qui manifestement inverse, en tout cas met à distance minimalement le western classique, mais tente à l'inverser. Et évidemment, l'inversion la plus évidente, c'est l'inversion des rôles sexuels. Donc au lieu d'avoir le tireur qu'on attend, Johnny Guitar, dès qu'il arrive, on dit bon, c'est lui le héros, il est solitaire, il vient régler les problèmes. Mais il se trouve qu'il n'a pas d'arme, il a juste une guitare, qu'il est manifestement, comme on le voit de plus en plus à l'intérieur du film, quelqu'un qui, ou bien spectateur, il regarde, il circule entre les gens, mais il n'agit pas directement. Et la seule fois où il agit contre le petit garçon qui veut faire le brave, c'est à contre-temps. Donc il ne sait pas tellement trop bien comment s'y prendre. Et par rapport à Vienna, il est au moins infantilisé. Il lui dit, raconte-moi des histoires, mens-moi s'il le faut, dis-moi des jolies choses. Donc infantilisé ou féminisé, en tout cas, il y a vraiment une inversion complète. Et évidemment, deux personnes qui sont pratiquement en charge de toute la trame de l'intrigue à l'intérieur du film sont les deux femmes, Vienna et Emma. Et l'affrontement dans le film, ce qui compte, c'est l'affrontement entre ces deux personnes-là. Les hommes donnent une sorte de caisse de résonance à ce conflit-là, mais pas beaucoup plus qu'une caisse de résonance, même quand ils agissent. Donc il y a dans cette inversion, c'est pas simplement une inversion de l'espace qui est ainsi un peu annulée ou réintériorisée, comme si l'espace involuait, pourrait-on dire. C'est que les rôles sexuels, là aussi, sont exactement opposés. Et on peut y voir un enjeu relativement politique. C'est en 54, déjà, très inhabituel, évidemment, d'avoir la possibilité pour des femmes d'avoir des rôles comme ça. En général, les femmes, surtout dans les westerns, même en général beaucoup dans les autres films, mais encore plus dans les westerns où les rôles sont quand même assez stéréotypés, on a ou bien la femme qui est la jeune vierge, plus ou moins effarouchée, qui devrait normalement tomber amoureuse du héros et l'épouser à la fin. Grosso modo, il y a ce genre de rôle-là, sur lequel on peut raffiner, mais qui a quand même quelque chose qui est très déterminé. Donc celle qui doit devenir l'épouse et mère pour assurer le lignage et compagnie. Ou bien la prostituée, l'entraîneuse de saloon, etc. Il est clair que les deux femmes dans ce film-là incarnent ces deux types-là. D'un côté, on a la jeune femme, la jeune fille dont on ne sait pas très bien si elle est amoureuse d'un single kid ou pas, si elle l'aime ou si elle le hait, c'est peut-être la même chose fondamentalement. Si elle désire véritablement l'avoir ou si elle a peur de son propre désir et donc le refuse et préfère le voir tuer que de voir l'épouser, il peut y avoir cette trame-là. Et il est clair que Vienna, c'est quelqu'un qui a fauté, comme il le dit au moins une fois, et qui à partir de là a utilisé les hommes en étant entretenu pour pouvoir avoir assez d'argent pour s'acheter enfin son saloon. Donc deux trajectoires très archétypales, mais en même temps, ce sont en général les rôles secondaires. Les hommes sont ceux qui agissent. Or ici, c'est comme si ces deux rôles archi caricaturaux, dans une certaine mesure, Nicolas Rey les prenait, et comme le reste de son film inverse d'une série d'éléments stéréotypés, il reprend le stéréotype et puis il le retourne complètement. Et il dit, vous croyez que c'était les hommes qui agissaient dans les westerns ? Pas du tout. Absolument pas. C'est les femmes qui agissent. Sont elles qui sont les moteurs de l'intrigue et les véritables personnes qui ont le pouvoir. Même si les autres ont l'air d'avoir le pouvoir, en fait, sont elles qui dominent totalement. Donc, en ce sens, évidemment, le duel final vient constituer une sorte d'apothéose, là où on attend, pendant tout le film, probablement, l'affrontement de Dancing Kid et de Johnny Guitar, l'un qui danse et l'autre qui fait sa musique. En fait, pas du tout. C'est pas du tout eux qui interviennent. C'est le grand duel entre celle qui dit « Vienna, I'm coming up », j'arrive, je monte, et l'autre dit « j'attends ». Et hop, on a le duel archi-classique là aussi, mais évidemment, des femmes qui se battent ainsi, tout à fait étrange, et très inattendu. C'est tout ça basé un petit peu sur un fond qui lui aussi est politiquement relativement classique, à la fois dans les westerns et dans l'histoire des États-Unis, l'affrontement entre les grands éleveurs qui ont le territoire depuis déjà quelques décennies probablement, et les petits fermiers, ceux qui mettent du barbelé partout, donc qui enclosent l'espace, qui le ferment, et le train qui, lui, est la seule ouverture en fait, par laquelle ces petits fermiers arrivent à arriver. Donc l'opposition entre ceux qui sont installés et qui ont le pouvoir et les immigrants, pour aller très, très rapidement. Donc cette opposition politique, on la voit assez facilement, et dans la première grande scène du saloon, si vous vous souvenez, lorsque, après l'attaque de la diligence, Emma Small et puis le shérif et toute la bande débarquent pour la première fois dans le saloon de Vienna. Vienna est en démarche et elle essaie de faire sortir ce qu'il y a de véritablement de productif, ce par quoi les individus qui sont là sous ses yeux sont véritablement mus. Et petit à petit, ce qu'elle en vient à tirer de Emma elle-même, c'est pas simplement qu'ils veulent venger la mort de frère d'Emma, ni seulement que en fait ils veulent liquider la bande de Dancing Kid, ni seulement qu'elle est amoureuse en fait de Dancing Kid ou que lui voudrait la voir, mais en fait, et c'est exactement ce qui sort à un moment quand elle dit et vous et vos sales fermiers ils vont pas arriver avec le train, et lorsqu'elle dit ça, le train, là John Crawford qui joue Vienna s'épanouit dans une certaine mesure. Et elle dit « Ah, voilà la vérité !» Donc en fait, la vérité sur laquelle elle essaye de mettre le doigt, c'est une vérité d'ordre politique, disons économico-politique. Vous avez le pouvoir et la domination sur ce territoire, en tant que le pouvoir économique, et vous voulez le garder, et c'est pour ça que vous voulez, à la fois que vous êtes contre Dancing Kid, et contre moi, et surtout contre moi, parce que je représente justement cette arrivée des petits fermiers, cette nouvelle économie, ce changement de pouvoir, et que c'est ça qui est en cause. Donc on peut avoir, je pense, une lecture en fait de ce western, il y en a d'autres assez nombreux, où en deçà de la trame, disons, de l'intrigue un peu justement stéréotypée, duel, affrontement, désir sexuel est plus ou moins échangé. Fondamentalement, ce qu'il y a derrière, c'est une trame d'ordre politique général qui consiste à dire, bon voilà, on a historiquement l'affrontement entre deux types de pouvoir. Et on pourrait tenir, cette position-là. Il me semble qu'elle est trop simple et qu'en fait, le film pose un autre problème. Et c'est celui sur lequel je vais juste insister ponctuellement, et après on passe au débat pour en discuter. Il me semble que c'est trop simple parce que le film insiste lui-même sur « voilà la vérité ». Il le met en scène. Et on peut toujours soupçonner que quand c'est tellement mis en scène, c'est qu'il y a autre chose qui est en jeu. Et il me semble que le renversement général des codes du western. La trame politique que je viens de rappeler très, très brièvement, qui elle-même fait relativement partie des codes du western, laisse place à une autre interrogation par où les rôles sexuels inversés que je signalais, mais qui étaient assez évidents il y a un instant, ces rôles sexuels où tout à coup la femme a l'air de pouvoir prendre une place qui ne lui était pas réservée d'habitude, me semblent néanmoins poser problème. Au sens où on pourrait dire, voilà, un western qui politiquement est assez engagé, qui essaye de donner une valeur à des femmes qui n'en ont d'habitude pas, qui renversent les stéréotypes. En même temps, il me semble que la question du spectacle est extraordinairement importante à l'intérieur de ce film. C'est pour ça que je commençais déjà en disant il y a une annulation de l'espace, il n'y a pas de profondeur de champ en fait, dans ce film-là. Beaucoup de gros plans, c'est très très rapproché. On élimine complètement la dimension de projection dans l'espace. Et probablement une des scènes les plus caractéristiques, c'est le moment où le seul moment en fait où on a une vision d'un horizon de montagne, etc., c'est le moment où Dancing Kid décide qu'ils vont aller tous en Californie et il sort, s'appuie sur la rambarde et il a une sorte de coup d'œil général sur les montagnes, signifiant bien sûr, bon voilà, tout ça, je vais le prendre avec moi parce que je taque la banque et je pars de tout ça et je vais en Californie. Donc je me projette complètement dans le paysage. Et c'est à peu près un des très très rares plans où on a un paysage comme ça. Et il y a un fondu enchaîné, il y a très peu de fondus enchaînés dans ce film. Il y a un fondu enchaîné, et qu'est-ce qui arrive comme plan suivant ? C'est Vienna, intérieur nuit, qui descend les marches de l'escalier du saloon. Donc on rentre tout de suite dans la clôture, avec la femme qui descend en robe de nuit, etc. Elle qui avait le côté très masculin au départ, habillée en homme, à partir de là, elle est habillée en femme. Sauf voilà, toute fin évidemment pour le duel, etc. Mais le changement se fait à ce moment-là. Et donc il y a un côté, je dirais, extrêmement mis en spectacle. Et le héros au départ, hein, celui qui regarde l'attaque de la diligence, hein, je le soulignais tout à l'heure, c'est celui qui est spectateur. De manière assez symptomatique, un des premiers plans où on le voit vraiment d'assez près, cadré, plan américain, lorsqu'il regarde les gens se faire attaquer dans la diligence, on le voit avec les rênes sur le pommeau, et en fait, il a les mains croisées sur le pommeau, et les rênes sont un peu comme s'il avait les mains liées. Il est celui qui est en fait non seulement spectateur, mais presque prisonnier. C'est très bref, mais on le voit quand même. Et cette question du spectacle donc, me semble assez importante. Et importante justement pour ne pas tomber peut-être dans la facilité de dire « Bon, voilà un film progressiste politiquement parce qu'il inverse les rôles sexuels. » En fait, il me semble que ce film montre surtout une chose, le caractère fascinant et effrayant des femmes qui se battent. Le duel à la fin est très, très symptomatique là-dessus. Les plans des regards des hommes au moment où les deux femmes vont se battre en duel sont à la fois horrifiés, complètement hallucinés par ce qui est en train de se passer, mais comme un spectacle. Lorsque Vienna, quand tout le monde vient dans son saloon pour la deuxième fois, et qu'ils découvrent le jeune garçon, elle leur demande « Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi ? Je savais que vous viendriez, mais pourquoi vous êtes là ?» Et la réponse qui me semble la plus évidente, c'est que tous les hommes sont là pour voir les deux femmes se battre. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. Mais en même temps, ce qui les intéresse, c'est qu'il les fascine et qu'il les horrifie et qu'il les terrifie. Et la question du territoire, le terreo en latin, c'est le, c'est la terre, c'est ce qui donne la terreur, mais c'est de là que vient la notion de territoire. Et le territoire a toujours quelque chose qui est de l'ordre du terrifiant. Et là, ce territoire, il est marqué, il est ancré par la présence des femmes. Mais cette présence, c'est une présence à la fois totalement spectaculaire. Ce qu'on veut voir, c'est le grand spectacle de la fin du duel. Mais en même temps, totalement horrifique. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment voir. Et c'est du coup extrêmement ambivalent, je dirais, à ce niveau-là. Et je pense qu'on ne peut pas se tenir simplement à une vision ni politique, ni spécifiquement progressiste de ce point de vue-là, mais comme une façon dont le cinéma lui-même, le cinéma de Nicolas Rey au premier chef, essaye de, pas simplement d'exploiter les femmes comme voilà la belle femme qui va descendre et qui va emporter le désir des hommes sur son chemin, désir des hommes spectateurs comme désir des hommes à l'intérieur du film, mais beaucoup plus comme une façon de voir le caractère fascinant et effrayant de ces femmes-là, surtout quand elles prennent le pouvoir. Mais on leur laisse le pouvoir. Manifestement, les hommes laissent filer. Et pourquoi est-ce que j'en viens à cette conclusion-là ? Parce que si vraiment la vérité du film était la vérité politique qui était marquée, hein, l'opposition entre le train et la terre, entre les immigrants et les petits fermiers et les grands éleveurs, on ne comprendrait pas du tout la fin. La fin, les hommes, non seulement McLaver, mais ses propres hommes à lui, disent « on ne veut plus de tuerie ». On en a assez. On ne veut pas s'affronter aux autres. Donc ça veut dire on ne veut plus tuer pour maintenir notre propre pouvoir. Tout ce qui reste, c'est ce que dit McLaver, laissons-les, ce sont elles qui ont commencé. C'était mal traduit. Donc ce sont elles qui ont commencé. Et en fait, la vérité qu'a l'air d'indiquer le film, c'est il y a cette dimension politique classique, mais il y a une dimension en deçà de celle-là, la vérité du politique en quelque sorte, c'est de dire c'est la faute des femmes. Ce sont elles qui sont les responsables. Ce n'est pas nous les hommes, même si on est sans arrêt mis en scène à l'intérieur du film comme les violents, comme ceux qui veulent tuer, comme Johnny Guitar, qui est parangon manifestement de celui qui... et qui a la gâchette facile, donc il tue. C'est censé être un tueur. Mais en fait, ces rituels de tuerie cèdent la place à une figure qui apparaît beaucoup plus fondamentale, qui est la femme meurtrière, plutôt que l'homme meurtrière. Alors bien sûr, Emma l'incarne avec un panache assez éblouissant, même si elle est petite, hein, Emma Small, c'est elle qui emporte tout sur son passage. Mais il y a cette ambiguïté, je dirais ultime, où la vérité du politique n'est plus simplement le rapport de domination ou le rapport de pouvoir entre hommes, y compris violents, mais un autre type de rapport, certainement tout aussi violent, peut-être encore plus, un rapport de représentation, d'où le spectacle, entre hommes et femmes. Voilà un petit peu le parcours, très brièvement évidemment, on peut proposer, mais en général il y a toujours plein de questions et ça rebondit et donc on peut apporter, j'ai laissé de côté tout un tas de choses qui pourront réapparaître dans la discussion, mais c'est bien aussi que vous puissiez à la fois réagir au film, réagir aux petites choses que j'essayais d'en dire et puis engager comme ça le dialogue. Les premières questions sont toujours les plus difficiles. Mais il faut toujours que quelqu'un arrive à se lancer, évidemment.
Et quel est l'événement américain qui a fait que le cinéaste a justement contrecarré ce qui se faisait habituellement ?
Je ne suis pas sûr que ce soit juste un événement. Et Nicolas Rey est quelqu'un qui est politiquement assez engagé assez tôt. Il a même flirté avec le Parti communiste. Donc il est très proche d'Elia Kazan. Donc c'est quelqu'un qui, manifestement, a des idées très largement à gauche. Donc ça donne quand même une certaine tonalité à ses films, pas tous. Il y en a certains qui sont des films de commande qu'il a fait, et qu'il a longtemps regretté d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait les faire, surtout dans les années 50. Mais en même temps, il essaye de dire des choses qui ne se disent pas d'habitude. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un événement qui puisse expliquer cela. Je crois qu'il a à la fois une fascination pour le cinéma, ce qui est un peu normal quand même pour un cinéaste. Et donc, quand je disais qu'il y a une inversion des codes du western, ça ne veut pas dire pour autant qu'il fait un pastiche de western, qu'il fait un faux western, ou un pseudo-western, comme je l'ai lu parfois. C'est un western qui se tient très très bien parmi tous les westerns. Et ce n'est pas du tout par mépris ou condescendance qu'il inverse les codes. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour prendre les codes, pour jouer avec, pour les retourner, et en même temps pour essayer de dire autre chose avec ces mêmes contraintes-là. Je vous prends les situations archétypales, et puis maintenant on va essayer de déplacer un peu les choses pour faire apparaître d'autres éléments. Donc, il y a plutôt une vision politique générale, je dirais, qui fait qu'il peut être intéressé à reprendre un genre stéréotypé et à lui donner une tournure relativement inattendue. En même temps, ça a été un film qui a assez bien marché, qui est devenu quand même aussi un peu mythique par la suite, mais qui n'a pas posé de problème en tant que genre. Je veux dire, tout le monde reconnaissait que c'était du western. Ça va très bien. Alors, western un peu bizarre, mais western néanmoins. Mais je crois qu'il y a quand même cette vision politique générale qui vient teinter le film.
Et avec les femmes, sa vie était comment ?
Alors, je sais pas exactement. Encore une fois, je suis ni cinéphile ni spécialiste de Nicolas Ray. Que je sache, il a eu les aventures ordinaires des hommes de son époque avec les femmes, c'est-à-dire ça s'est plutôt mal passé. Mais
ce qui est curieux dans ce couple de femmes, c'est que Vienna, elle est féminine, Emma ne l'est pas. Emma, elle est aussi féminine que Marine Le Pen, par exemple, si on peut dire que Marine Le Pen est une femme. Oui, enfin, elle a pas de, on sent pas, elle est pas franchement incarnée dans Vienna.
Oui, alors je pense que votre intuition, personnellement, j'aurai à peu près le même genre d'intuition que la vôtre.
On se retrouve pas finalement tant que ça en face de deux femmes, parce qu'il y en a une qui a un rôle de caricature d'homme, comme peuvent l'être les femmes quand elles commencent à prendre les travers des hommes.
Et c'est Emma qui est la caricature de l'homme ?
Oui, oui. Franchement, oui.
Pour moi, c'est pas du tout.
Oui.
J'avoue de l'autre, parce que l'autre, elle a fait tomber les bons hommes qu'elle a voulu, elle a monté son salon, etc. Et Emma, ben, je pense, j'avoue, parce qu'elle ne peut pas les avoir, les bons hommes. Ah, Emma n'a pas ce qu'elle veut.
Ok. Alors, quand je disais que je... C'est bien tout à coup, tout le monde est à l'air de prendre un peu la chose à bras le corps. Oui, on pourrait presque voter. Mon sentiment là-dessus serait à la fois très, très proche du vôtre, au sens où, en effet, il me semble que d'un côté, on a une femme, avec presque un F majuscule, qui se présente comme femme, qui est Vienna. Et de l'autre côté, on a, j'essayais de dire tout à l'heure, une jeune fille, qui est pas si jeune que ça. Mais dans les deux rôles que j'esquissais, qui sont classiques dans le western et dans un grand nombre d'œuvres littéraires aussi, d'un côté la vierge qui doit aller vers le mariage, de l'autre côté la prostituée qui sert au plaisir plus sexuel. Dans ce partage-là, bon, on peut comprendre en effet que Vienna, c'est la femme au sens de la prostituée qui en effet fait tomber ou a fait tomber tout le monde. Et de l'autre côté, ben, on a justement celle qui n'est pas encore une femme. Et j'ai l'impression que, d'une part, moi j'aurais quand même tendance à dire que Vienna, peut-être c'est aussi le John Crawford qui l'incarne comme cela assez facilement, elle a un côté très masculin, pas seulement parce qu'elle est en pantalon, mais très carré, elle se tient très extraordinairement droite, elle est très rigide, elle est très immobile dans les traits. Elle a un côté relativement masculin. C'est peut-être pour ça aussi que le film marche autant mieux dans ce caractère de domination que c'est une femme, mais elle séduit, bien sûr, et en même temps, elle séduit peut-être par une sorte d'ambivalence à ce niveau-là. Mais pour Emma, là où personnellement je serais peut-être moins d'accord, c'est qu'il me semble qu'elle pourrait incarner ce moment extrêmement fragile, moment au sens très large du terme, je ne veux pas dire simplement un moment de développement de la carrière d'une femme qui devrait être normalement réalisée, mais ce moment où la jeune fille a à la fois extraordinairement envie de devenir une femme et extraordinairement peur de devenir une femme. Et le rapport entre les deux, qui est un rapport de haine évident, surtout de la part d'Emma, on peut le voir comme jalousie. Tout à fait normal, je pense en effet, en bonne partie probant. On peut le voir comme jalousie au sens « je désire avoir ce que l'autre a », mais on peut aussi le voir comme « je ne désire surtout pas être cette personne-là. Je ne veux pas être une femme. » Donc, non pas l'idée « je veux avoir ce qu'elle a », mais « je ne veux surtout pas être ce qu'elle est ». Et par « être ce qu'elle est », je ne veux pas dire simplement « prostituée », même si il y a cette dimension-là. Je ne veux pas grandir, d'une certaine mesure. Je veux être une petite fille. Et la haine qu'elle développe, dans une certaine mesure, est une sorte de haine de petite fille. Aussi violente, aussi farouche, aussi obstinée qu'une haine de petite fille. Telle que je peux imaginer les haines de petite fille. Mais je pense que les haines de petits garçons ne sont pas très très loin quand même. Donc il y a un côté par où il y a peut-être « je veux être l'autre », mais ça peut être aussi, me semble-t-il, « je ne veux surtout pas être l'autre ». Et ça, c'est terrible, et on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en tuant, ou en étant tué, de seule façon. Donc je crois que c'est plus compliqué, justement, que simplement l'envie ou la jalousie. Je crois qu'il y a quelque chose, là aussi, encore plus fondamental dans le développement, dans l'affrontement entre les deux. Dans la fascination aussi, ou peut-être dans le côté terrifiant. À un moment, vous vous souvenez, Vienna dit au jeune garçon qui veut faire le macho en tirant sur des boîtes à sel, de manière complètement puérile, évidemment. Elle lui dit, bon, tout homme a une part d'enfant en lui qu'il veut garder. Il y a cette dimension-là. Je crois que c'est aussi un film sur ce regard d'enfance. C'est pour ça que la présence de ce jeune garçon qui va finir pendu, le nom même de Dancing Kid, c'est un gosse qui danse, très littéralement. Ce gangster-là, ce cow-boy qui veut se donner des allures lui aussi de grand tueur, alors qu'il ne tue personne et qu'il n'a commis aucun crime, sauf le hold-up à la toute fin, mais poussé par la circonstance, c'est dans une certaine mesure un gosse. De la même manière que, dans une certaine mesure, Johnny Guitar, c'est celui qui dit « raconte-moi des histoires, dis-moi des choses gentilles, raconte-moi des histoires ». Donc il y a une présence de l'enfance très curieuse, un peu inattendue aussi dans ce film-là, et pas là où on l'attendrait, justement.
Ils sont sacrifiés quand même.
Ils sont sacrifiés. Qui sont sacrifiés?
Les jeunes.
Oui. Oui, tout absolument. Mais c'est justement parce que vous avez raison, mais si vraiment en effet il y a cette présence d'une enfance incarnée comme ça, qui manifestement est aussi problématique par le côté farouche, violent, haineux que ça peut développer, bah, c'est normal qu'on les liquide, d'une certaine mesure. Les adultes sont là pour ça, liquider les enfants, lorsqu'ils restent. Veulent rester des enfants, et s'ils arrivent à passer à l'âge adulte, voilà, c'est très bien, on va les mettre dans la tribu. Mais il y a aussi cette espèce de, pas simplement rite de passage, c'est presque, la clôture dont je parlais au début, la clôture spatiale, c'est aussi une clôture des individus sur eux-mêmes. Vous vouliez... Oui, c'est le spectacle, le show. Vous voulez dire Johnny Guitar? Ou le... Ah oui, d'accord.
Comment,
tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça va, disons que cette lecture-là fonctionne très bien sur ce que je désignais tout à l'heure comme la vérité marquée par Emma, décryptée et déchiffrée par Vienna, c'est le train, les immigrants, donc le politique, donc la vérité de l'opposition, elle est là. Et de fait, on voit très bien comment MacGyver dit à un moment non, c'est pas encore le bon moment pour leur parler, attends, il faut qu'ils soient en colère. Ce ne sont pas des tueurs, il dit, ce ne sont pas des tueurs. Il faut les constituer comme tueurs, et pour les constituer comme tueurs, il va falloir les mettre en colère, et ça prend du temps. Il faut des circonstances particulières. Donc il y a manifestement une manipulation très consciente, très organisée, de ce qui apparaît comme le plus instantané, impulsif, d'une passion d'indignation ou de colère qui emporterait des individus et qui ferait la différence entre un ensemble d'individus rationnellement constitués, avec qui on peut discuter, et une foule. Et ce que dit à un moment, vers la fin, John Guitar, à Vienna elle-même, quand ils sont sur le petit pont et avant qu'ils ne se séparent, c'est justement, bon, ils vont arriver, ils seront complètement tous fous. Ils agiront tous ensemble sans même savoir pourquoi, et tout ce qu'ils voudront, c'est tuer, et peu importe qui, et si c'est toi qui sera là, c'est toi qui va y passer, donc il faut s'en aller, ou il faut au contraire que j'arrive derrière et que j'en tue quelques-uns, comme ça va leur mettre littéralement du plomb dans la cervelle, etc. Et elle dit non, je ne veux pas de tuerie. Donc il y a un refus de la tuerie qui est quand même très intéressant, mais on voit bien qu'il y a ce modèle de manipulation qui vise à constituer ces individus comme une foule aveugle qui veut simplement tuer du sang. Donc le côté un peu sacrificiel, primaire de cette manipulation. Sauf que, à la fin, encore une fois, ce que dit ce même personnage, c'est on arrête les tueries. J'en veux plus. Terminé. Et donc... Cette possibilité-là fonctionne jusqu'à ce moment-là. Mais à partir de là, ça ne peut plus fonctionner. Il y a manifestement une autre vérité qui apparaît. Ça n'annule pas la première. Elle est tout à fait plausible, étonnable, et on peut en faire une des interprétations du film. Mais en même temps, on ne peut pas s'y tenir. Parce que sinon, on rate, me semble-t-il...
à la fois la résolution qui intervient et la portée de cette résolution, de cette fin.
Est-ce que ce n'était pas la présence du salon qui était en quelque sorte le pont d'arrivée du train, et qu'à partir du moment où le salon est brûlé, il n'y a plus tellement de risques que le train arrive?
Pas vraiment. Alors, vous avez raison au sens où le saloon est en effet une tête de pont. Quand vous entrez dans le saloon, la première fois qu'on y entre avec Johnny Guitar, il se met au comptoir. Et qu'est-ce que vous avez derrière le comptoir? Une grande maquette de train. Ou de la même façon, en plus réduit, vous avez la représentation de la ville en maquette avec le train à l'intérieur du saloon. Donc le saloon, c'est en effet non seulement une tête de pont, mais presque la caverne dans laquelle la ville future est en gestation. Si on peut essayer de filer la comparaison fœtale à ce niveau-là. Donc il y a ce foetus de ville qui est là, mais en maquette. Ça, c'est aussi une manière de se dissocier de l'espace classique. Hein, on ne vous montre pas une ville avec des gens dedans, il vous montre une ville abandonnée, il n'y a personne dedans, ou bien une maquette de ville. Et c'est ça l'espace. Donc c'est vraiment, encore une fois, une question de représentation, de déplacement d'échelle. Mais en même temps, c'est pas parce que le saloon brûle que le train ne va pas arriver. Il y a une sorte de, on pourrait dire, autrefois on aurait dit la grande marche de l'histoire, ça ne se bloque pas. Dans une certaine mesure, de toute façon, les éleveurs ont déjà perdu. C'est réglé. Le flot de dizaines, de centaines, de milliers de gens qui sont annoncés, il arrivera, ce flot. Un peu plus tard, un peu plus tôt, mais il sera là. Donc, de ce point de vue-là, la fin, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, la toute fin, lorsqu'ils sortent de cette clôture marquée par la cascade, etc., et qu'ils s'embrassent évidemment, tout ça sur la chanson. Et la chanson dit, le tout début, qu'ils partent, ou qu'ils sont... C'était quoi déjà? Le tout début de la chanson, est-ce que tu t'en souviens? Qu'ils partent ou qu'ils restent, hein, je pense. De toute façon, ce sera celui que j'aime, ainsi de suite. Ce qui veut dire... Est-ce qu'ils sont là tous les deux et ils vont s'en aller, tous les deux? Donc ils reprennent l'errance, donc ils s'en vont, ils partent, mais ensemble, plus loin, ailleurs. Ou bien est-ce qu'ils retournent au saloon, ils refont le saloon et puis ils attendent que le train arrive? La chanson qui pourrait servir de cadre interprétatif ne permet pas de savoir l'un ou l'autre. Et en fait, ça peut être l'un et l'autre. Rien ne suppose. Donc, ils peuvent très bien maintenir le saloon comme tête de pont, faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'à attendre le train eux-mêmes, ou partir, reprendre une sorte d'errance. Oui, manifestement, ils les laissent vivre ensemble, parce qu'il y a autre chose qui s'est joué entre-temps, qui est, me semble-t-il, et c'est la seule façon pour moi de l'expliquer, plutôt que de les tuer tous les deux, c'est que le conflit est rabattu sur une affaire de femme et on sort de ce rapport de domination-là pour évoquer une sorte d'autre rapport qui serait ainsi déplacé dans une certaine mesure. Oui?
Par rapport à la version homme-femme que vous avez établie au début, il y a aussi une inversion entre les deux femmes. La femme de mauvaise vie est en fait la femme qui est dans son bon droit, qui défend une certaine justice, alors que la femme qui représente la femme respectable manipule, est dans le mensonge et est complètement dépendante de sa haine.
Absolument. Vous avez tout absolument raison. C'est... Alors ça, je dirais, pour revenir à Nicolas Rey lui-même, c'est assez typique de ce qu'il essaye de faire passer dans le cinéma quand il peut arriver à gérer le scénario de telle sorte qu'il fasse ce qu'il a à peu près envie de faire. Il disait que même enfin, dans les meilleurs films qu'il a fait à ses yeux, 50%, c'est ce qu'il voulait essayer de dire. Les autres 50%, c'est ce qu'on lui a imposé. Bon, on peut imaginer encore pire dans les, ceux qu'il a plus ou moins renié. Il n'aimait pas tellement, d'ailleurs, Johnny Guitar. Il n'aimait pas tellement ce film-là. Et, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne crois pas qu'il l'ait dit, mais je sais qu'il disait non, c'est pas terrible. Mais donc, ce qui est quand même assez récurrent chez lui, c'est cette idée que les gens apparemment hors la loi sont en fait ceux qui sont beaucoup plus dans la justice que ceux qui sont dans leur bon droit, mais qui sont en fait des êtres injustes. Donc on pourrait voir chez lui une certaine opposition entre justice et droit, mettons-le comme ça. Donc les gens peuvent respecter le droit, mais être en fait fondamentalement injustes. Et la dimension politique ressort, bien sûr. Parce que ce sont ceux qui ont le pouvoir qui, justement, manipulent le droit pour faire en sorte d'avoir l'air d'être dans la justice, mais en fait, de ne pas y être.
Les plus moralistes sont les plus amoraux.
Oui, ceux qui font le plus la morale aux autres sont en fait des êtres qui manifestement ne sont pas des êtres moraux, donc n'ont pas un véritable sens de la justice.
Oui. Je voulais savoir si dans la nouvelle sur le film, les rôles étaient inversés comme ça.
Oui, c'est une bonne question. Aucune idée. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé lire le livre, mais vous avez raison, ça serait intéressant de voir. En général, Nicolas Rey, quand il s'implique dans un film, s'implique aussi beaucoup dans le scénario. Donc, il est vraisemblable qu'il a de toute façon apporté beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y avait déjà cette dimension de renversement des rôles sexuels ? Je ne sais pas. Dans le choix, vous voulez dire ? Qui déjà une, c'est difficile, mais deux, c'est terrible, ça vous voulez dire ?
Non, c'est dire qu'il y en a deux dans le village.
Oui, c'est deux femmes qu'on voit, bien sûr.
Il y a plein d'enfants.
Tout à fait. Il y a quelques enfants, en effet, qu'on voit au moment où tout le monde s'en va pour la poursuite. Tous les hommes s'en vont pour la poursuite. Mais sinon, encore une fois, c'est une ville qui a l'air d'être déserte. On ne voit en effet que des hommes. À partir du moment où il y a l'enterrement, ils sont tous en noir. Donc évidemment, il y a une magnifique opposition, non pas de couleur justement, mais de noir et blanc. Alors que c'est un film qui joue beaucoup sur la couleur, avec de magnifiques contrastes. Et je pense que la copie n'était pas trop mauvaise, mais la technique qui était utilisée, le tricolore, est une technique qui vieillit très très mal.
Donc, elle est
comment ?
Ah
non. Il a été fait dès le départ en couleur, hein, tout à fait. Mais c'est un procédé qui n'était pas extraordinairement fiable au moment où c'est en 54, au moment où c'est filmé. Il y avait déjà en fait des techniques qu'avait développé Eastman Color qui étaient bien meilleures. Et en fait, d'après ce que je crois savoir, le film a été en fait pas uniquement en tricolore, même si c'est annoncé tricolore. Il y a déjà un travail qui apparemment est un peu différent, qui est déjà un peu pris en charge par les équipes d'Eastman Color. Mais probablement que les couleurs devaient être encore plus flamboyantes au tout début. Donc, noir et blanc, quand il y a cette espèce d'annulation justement du dispositif coloré que permet ce cinéma, c'est encore plus frappant de jouer comme ça avec je vous fais un film superbement en couleurs et je mets plein de noir et blanc.
C'est pas une manière de distinguer les méchants qui sont habillés en noir et blanc et les gentils qui sont habillés toujours en couleur.
Bien sûr, Bien sûr, il y a une façon, elle le dit elle-même, hein, vous êtes là avec vos habits d'enterrement, comme des vautours autour de moi, etc. Donc il y a une manière, bien sûr, de marquer très fortement. Et là aussi, il n'hésite pas à prendre cette espèce de topos du western, qu'il y a les bons et les méchants. Mais on voit quand même que bon, dans les méchants, finalement, ils ne sont pas si méchants que ça. Enfin, en tout cas, il y a des limites à leur méchanceté, manifestement. Les bons, bah, ils ne sont quand même pas très très bons. Donc, bien sûr, on peut jouer sur des gros contrastes, mais dans le détail, bon, la bande de Dancing Kid, en fait, c'est des petits... des gens qui veulent s'amuser. Mais ils font quand même un hold-up à la fin. Donc, c'est un... bon. Oui, mais comme le dit très justement Johnny Guitar lui-même, qui devait avoir l'air de s'y connaître, bon, ils n'ont pas mis dans le crâne qu'il fallait aller dévaliser la banque. Ils ont juste dit « casse-toi ». Et bien sûr, on peut aller de l'un à l'autre. Hein. Il y a une fonction relativement rationnelle pour permettre de faire ce déplacement, mais le choix, même s'il est rationnel, est quand même un choix. Et il choisit telle voie plutôt qu'une autre. Donc je crois qu'il joue bien sûr sur noir et blanc et grand symbole, mais dans la pratique, c'est pas du tout aussi évident que cette opposition-là, qui est très, très, très forte, en effet. Moi, je la vois beaucoup plus comme une sorte de jeu sur, à la fois sur le stéréotype du noir-blanc bien mal, et le jeu d'annulation, le jeu là avec la technique elle-même, le dispositif coloré, je vais vous donner des couleurs qui ne sont pas des couleurs. Mais vous disiez la robe blanche.
Oui, voilà, j'évoquais la robe blanche, où c'est vraiment un contraste énorme.
Tout à fait, tout à fait. Ah bon, c'est une scène, je trouve, d'anthologie. Hein, et là, on saisit tout à fait comment... Emma est la première à rentrer, elle pousse la porte à double battant, et elle s'écarte légèrement sur la droite, et en fait c'est la caméra qui entre, qui arrive à peu près au premier tiers, qui s'arrête, et donc on avance avec elle, avec cette caméra, dans la salle pour voir Vienna au piano en train de jouer. Avec ce décor fabuleux de rochers qui est en total contraste avec le piano. Franchement. Donc là, c'est une.
Et aussi une prostituée, ex-prostituée qui joue du piano classique.
Exactement. Classique. Avec, et quand je vous disais, oui.
Bah, et qui a la robe de Scarlett O'Hara, je pense.
Oui.
Donc, qui reprend un peu une robe d'héroïne qui défend son territoire.
Oui, autant on emporte le vent.
Donc
le sud, etc.
Qui dit je ne vais pas partir, c'est ici que
je fais. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi, je vous avais dit d'écouter beaucoup la les musiques en fait, dans ce film. C'est quand même le moment où ce qu'elle joue, c'est évidemment la mélodie obsessionnelle qu'on a dans le film, qui est d'abord qui apparaît très rapidement dans le générique. Commence avec un truc très fanfare, western classique, et puis tout à coup on a ce thème qui apparaît beaucoup plus doux, plutôt mélancolique en fait, et c'est ce que joue Johnny Guitar, et Kiena lui dit non, arrête. Donc on sent bien que c'est un thème chargé de toute la signification amoureuse qu'il avait dans le passé, donc ouvertement mélancolique. Et il revient à plusieurs reprises comme presque une sorte de support des dialogues entre Vienna et Johnny Guitar à plusieurs moments. Et c'est ça qu'elle reprend elle-même. Donc elle assume complètement ce passé. Elle reprend comme mélodie contre cette bande, cette foule qui veut la lyncher. Et ce qu'elle leur oppose, c'est une mélodie, et une mélodie mélancolique qu'elle joue tout en parlant très calmement, avec beaucoup de douceur, alors que les autres sont tous énervés et crient. Donc les contrastes sont là aussi, hein, c'est pas juste blanc-noir, c'est douceur, colère, c'est mélancolie, violence, et il y a une sorte d'instance musicale dans ce film qui, je crois, est très 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 forte lorsque Vinadi, au début, lance la roulette, j'aime bien le bruit. C'est la musique qui compte. C'est pas tellement la roulette en tant que roulette, c'est ce bruit qui vient rythmer. Alors moi, j'aurais tendance à dire comme une sorte d'écho anticipateur des roues du train, qui ont ce côté qui arrive. Ça peut être le destin, bien sûr, la roulette est très chargée symboliquement, mais je crois qu'il y a aussi ce niveau musical qui compte beaucoup. Nicolas Rey, si vous intéressez plus à lui directement, au début des années 40, il avait été chargé avec un ami à lui, Alan Lomax, de parcourir tout le Sud pour enregistrer les musiques folk sur place. Pour la bibliothèque du Congrès, pour que ça soit archivé et qu'on les garde comme mémoire d'un certain, ce qu'on appellerait aujourd'hui un patrimoine. Donc on n'appelait pas ça comme ça, mais on les avait quand même chargés de cette mission qui était assez importante. Et donc c'est quelqu'un qui aime la musique, qui a le sens de la musique, qui sait ce que c'est que la musique, qui sait comment utiliser la musique et qui pour lui est importante. Donc là, je crois qu'il y a aussi une dimension musicale dans le film, ne serait-ce qu'obsessionnellement. Là, j'ai revu le film cet après-midi, histoire de me le remettre un petit peu en tête avant de venir. Il est clair que en venant dans le métro et tout ça, je chantonnais la mélodie. Et j'espère bien que c'est exactement ce que vous allez faire en partant. Elle a un côté assez obsessionnel, assez simple. Et Victor Young, qui l'a écrite, qui est un des compositeurs favoris d'Hollywood, il a fait 350 films, c'est absolument faramineux. Là, je trouve une réussite. C'est très simple, mais ça reste. C'est très, très bon. C'est vrai. Ah. Excellente. Très belle initiative. Très, très belle initiative.
Moi, je veux plutôt comme un essai sur le thème, un essai de regard. Comme un essai où le guitare sur le regard, c'est lui le spectateur, il intervient peu, il voit quoi, il regarde, il tire les ficelles, il intervient pour vous mettre.
Oui, il y a quelques éléments qui iraient certainement dans votre sens. La première, lorsque les deux groupes dans le saloon sont l'un contre l'autre, Dancing Kid est arrivé, les autres sont déjà là, et donc il y a cette espèce d'affrontement physique entre les deux lignes, en quelque sorte. Carrie boit un verre de whisky et on voit il y a un gros plan sur le verre qui tourne. Il tourne une fois, il tourne une deuxième fois, il arrive près du bord et il tombe. Il y a une main qui arrive, qui le reprend, qui le pose, et Johnny Guitar apparaît. Donc Johnny Guitar, en ce sens, c'est celui qui intervient juste au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Celui qui saisit l'occasion, très littéralement, pour faire quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va vers Dancing Kid, il lui dit, tu peux me donner une cigarette? Il va de l'autre côté, vers l'ennemi, manifeste, tu peux me donner du feu? À chaque fois, c'est friend, manière habituelle de parler, mais en même temps, c'est quand même chargé. C'est le seul qui dise vraiment ça de manière systématique. Donc, c'est celui qui ne donne pas, qui demande qu'on lui donne quelque chose. Et par ces deux dons, une cigarette, du feu, il crée du lien. C'est celui qui, manifestement, a l'air de pouvoir créer du lien entre les individus. Et de, par cette manière du don qui devrait lier les êtres. En même temps, ça ne marche pas très bien. Parce que, manifestement, il a l'air de produire des effets de liaison. Mais d'une part, quand même, c'est comme le dit Viena à un moment, il y a 5 ans, c'est toi qui n'as pas voulu te lier, rester sur un terrain et puis te lier à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui veut sa liberté, qui est dans la déliaison, pas dans la liaison. Mais bon, il apparaît un peu comme quelqu'un qui lie. Et évidemment, l'autre occurrence de l'occasion saisie fraction de seconde, c'est quand il sauve Viena, qu'il tranche la corde exactement au moment où le cheval s'en va. Donc ça, c'est bien sûr. Mais le côté, enfin, à part ça, il fait peu de choses, et même à la toute fin, on l'attend pour tirer. Bon, il liquide Barthe quand même, faut pas exagérer, il faut quand même qu'il en liquide un. Mais à part ça, il aurait très bien pu tirer sur Emma avant même qu'elle ne tire, pour sauver celle qu'il aime, ou des choses comme ça. Mais non, ils regardent tous absolument abasourdis.
C'est un des paradoxes, parce que ça semble être, il semble avoir été un maniaque du revolver,
oui.
Et il n'y a plus personne, il n'utilise pas son revolver, c'est juste pour faire une démonstration de sa virtuosité au revolver.
Tout à fait. Tout à fait. Donc ça fait partie justement de cette inversion. Et bon, quand on parlait tout à l'heure de Viena, où personnellement je soulignais quand même son caractère très homme, si vous vous souvenez au tout début, lorsque dans le saloon, elle dit mets une lampe à l'extérieur. Il dit mais c'est pas la peine, personne va venir, il fait trop mauvais. Mets une lampe quand même. Donc il y a eu bien de quelqu'un. Et donc, il se dirige vers la cuisine et il parle. Et ce qu'il dit, c'est elle agit comme un homme. Je ne sais plus exactement le
coup. Dirigée par une femme.
Voilà, je suis dirigé par une femme. Enfin, en tout cas, il souligne le côté qu'elle est l'homme de la situation ou de la maison. Et quand il dit ça, il est en plein champ caméra et il regarde la caméra. Normalement, on ne fait jamais, évidemment, hein, dans ce genre de cinéma-là. Il est exactement dans la caméra. Alors après, on comprend parce qu'il est cadré par la fenêtre entre la cuisine et le saloon, et un plan latéral le montre en train de parler à Tom. Mais pendant un moment, ce qu'il nous dit à nous, spectateurs, c'est un homme, cette femme. Et il nous le dit directement. Donc c'est quand même très marqué. Cette position.
Vous êtes témoin.
Oui, exactement. Il nous dit, bon, je vous l'annonce, on est au début du film quand même, hein, donc je vous mets en situation, c'est un homme. Et c'est elle qui domine et qui est.
Est-ce que John Crawford est vraiment séduisant dans ce film ?
Ben, je ne sais pas. Je pense que là, chacun peut répondre. Est-ce qu'elle est séduisante ? L'effroi est une manière de séduire. Hein. On séduit de multiples façons.
En tous les cas, elle est très respectée parce que quand je faisais les réglos, quand elle réglait ses croupiers,
oui.
Elle est très respectée parce qu'elle est juste. Hein. Elle manipule pas, la parole, c'est la parole. Mmh. Ben, c'est vraiment tout à l'heure, on disait le versant de s'appuyer sur rien, quoi. C'est que du mensonge, des promesses, mais quand même ils sont vendus, enfin bon, il n'y a rien qui se tient. Et là, c'est vraiment l'inverse. La pureté, on a déjà parlé, etc. Mm-hmm. Bon, puisque c'est
Oui, on sent qu'il y a, façon dont on disait tout à l'heure, ce côté profondément juste qui essaye d'avoir une teneur de justice, qui peut mentir s'il le faut. Elle sait très bien où est le repère de Dancing Kid. Elle ne veut pas le dire parce qu'elle ne dénonce pas. Donc elle a dit je ne veux pas prendre parti, donc c'est tout. Je laisse les gens faire ce qu'ils veulent, mais dans mon rapport aux autres, je suis à la fois la plus juste, mais aussi la plus généreuse possible. Elle accepte quasiment, lorsqu'elle dit « sauve ta peau » au jeune garçon, c'est qu'elle risque quand même très gros. Quand elle donne, quand elle fait partir ses employés en leur donnant de l'argent, c'est pareil, etc. Donc il y a plus, je dirais, qu'un simple instance de sens moral. C'est une instance généreuse. Donc elle va plus que donner simplement quelque chose qui est réglo comme tel. C'est quelque chose qui va plus loin, je trouve.
À un moment, il y a le shérif à la scène finale. Il le pense en train de dire. Juste avant la dernière scène finale, ils vont tous sur la base.
Oui. En fait, je pense qu'il y a en effet quelque chose d'intéressant, c'est que ce sont plutôt les hommes ordinaires presque qui résistent le plus. À la fin, les chefs disent, en effet, moi non plus, je veux plus de tuerie. Mais ce sont les autres qui ont commencé à dire ça. Où on les voit résister, sont eux qui personne ne veut lyncher Vienna. Donc il y a une sorte de résistance des personnages ordinaires qui justement ne se constituent pas facilement en foule aveugle et assoiffée de sang.
Ce n'est pas une foule. Je ne sais pas si ça a été traduit par foule.
Oui.
Lorsque John Guitar dit, vous ne savez pas,
oui.
Mais il dit en anglais posse, qui n'est pas une foule. Ça c'est une traduction historiographiquement française, je dirais. Parce qu'un posse, c'est plutôt, si je peux emprunter du vocabulaire français, c'est un comité de sûreté publique.
Mm-hmm. Oui, qui a une certaine officialité.
Ce n'est pas une foule, c'est quelque chose qui s'est construit comme
un
comité de justice.
Oui.
Donc c'est ça qui est intéressant avec le shérif, c'est qu'il y a plusieurs formes de justice qui ont en tension.
Tout à fait.
Je trouve que foule,
une
très, très mauvaise traduction.
Tu as raison. Ah. En général, les sous-titres étaient assez problématiques. Quand ils n'oubliaient pas quelques éléments un peu compliqués à traduire, ils sautaient là-dessus. Quoi.
Au passage, le shérif qui est censé avoir représenté le pouvoir, la loi, etc., se fait régulièrement renvoyer dans ses
films. Oui, bien sûr.
Toi, mon gars, reste tranquille, c'est moi le chef.
Oui, mais parce que justement, comme tu le disais, c'est un moment, là aussi, de l'histoire des États-Unis où la représentation de la loi. Le pouvoir effectif du droit est pas tangent, ni vacillant, simplement qu'il y a plutôt un conflit entre différentes instances de représentation ou de production de la loi, du droit. Et donc, à ce niveau-là, entre ce qu'un shérif ou un marshal peuvent faire sur un certain type de territoire, ils ne peuvent pas le faire sur un autre type de territoire, par exemple une ville. Et donc à ce moment-là, ceux qui ont le pouvoir à l'intérieur de la ville, au sens de la loi, c'est ceux ceux qui représentent les habitants de cette ville, et ainsi de suite. Donc il y a, c'est plus un conflit entre différentes instances juridiques de production de droit qu'entre la loi et la sauvagerie, par exemple. C'est plus compliqué que ça. Donc en ce sens-là, oui, tu as raison de souligner qu'il y a cette dimension d'une possible légalité. En même temps, ce qu'il souligne, c'est que c'est une instance extraordinairement dangereuse parce que ce qu'ils veulent, au bout d'un moment, c'est arriver et puis tuer quelqu'un. Il leur faut du sang.
Oui.
Oui.
Mais je pense que sais qu'il y a énormément de travail juridique aux États-Unis actuellement qui montre que justement la notion de la loi sort justement de ces instances de pensée et non pas du droit soutenu par le shérif, etc. Donc si on allait tracer une histoire du droit dans l'Ouest américain, c'est justement ce genre de groupe-là qui a formé ce que c'est que le droit aujourd'hui.
D'autant plus intéressant qu'on le voit sous un angle, beaucoup plus limite, comme production effective de justice. C'est bon pour ce soir ?
Oui.
Merci beaucoup. Merci.